Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui sur la VOA, édition du 12 novembre 2014 en direct de Washington. Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Les grands points de l'actualité, les craintes de la propagation du virus Ebola s'accentuent au Mali suite au décès d'un autre patient, cette fois à Bamako.
Il y a eu une certaine imprudence, quoi, parce que vraiment toutes les structures de santé doivent pouvoir actuellement être sous leur garde.
Procès de Jean-Pierre Bemba à la CPI. Le procureur réclame un verdict de culpabilité pour l'ex-chef rebelle congolais.
Ce procès est pour les victimes un moment de vérité.
Signature d'un accord entre les deux plus gros pollueurs de la planète, la Chine et les États-Unis, pour mieux lutter contre le réchauffement climatique.
Crise en Ukraine, l'armée nationale sur pied de guerre après l'annonce d'une incursion militaire russe dans l'est du pays. Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord le journal.
Le Mali connaît deux nouveaux décès dus au virus Ebola à la clinique Pasteur de Bamako. Ces décès sont liés à l'entrée d'un ressortissant guinéen âgé de 65 ans. Plusieurs dizaines de personnes sont en quarantaine alors que le gouvernement a annoncé hier la fin de l'isolement pour 108 personnes suite au décès le 24 octobre à Kaye d'une fillette venue de Guinée. Le point avec Draman Maïga, directeur de la clinique Pasteur à Bamako.
Dans la clinique Pasteur aujourd'hui, on a eu un premier décès le 27 octobre. C'est un Guinéen qui est arrivé dans la nuit, après minuit, donc avec un tableau de dyspnée. Donc dans l'urgence, le médecin l'a hospitalisé. 3 jours après lui, il est décédé. Mais ce n'était pas confirmé. La confirmation est venue après parce qu'il y a eu beaucoup de cas de décès dans sa famille et dans les familles dans lesquelles il est passé. On suppose que c'est un cas de Ebola. Ensuite, l'infirmier qui l'a traité le premier jour de son arrivée, l'infirmier aussi, bon, lui, il est décédé hier. Pour lui, les examens sanguins ont été faits. C'est revenu positif. On a un médecin aussi. Il y a une suspicion parce qu'il a des fortes fièvres. Le traitement a été fait aujourd'hui, je crois. Donc, il faudra attendre 24 heures pour avoir les résultats. Non, selon les dernières nouvelles, le médecin qui a été évacué sur le site, il est résolu au traitement. Donc, on a bon espoir. On prie tous pour lui, pour que vraiment qu'il s'en sorte.
Draman Maïga de la clinique Pasteur à Bamako.
Dans le centre du Nigeria, une école de formation d'enseignants de l'État du Niger a été la cible d'un attentat suicide, indiquent les autorités. L'attaque perpétrée par une femme, selon la police, a eu lieu dans la ville de Contagora en milieu de journée. On ignore pour l'heure si quelqu'un d'autre est mort dans l'explosion. D'autre part, selon un nouveau bilan, l'attentat de lundi dans le nord-est du pays contre un lycée de Potiskum dans l'État de Yobe a fait 58 morts et 117 blessés. Selon l'AFP.
Alors que le procès à la Cour pénale internationale de Jean-Pierre Bemba touche à sa fin, le bureau du procureur a déclaré que l'ex-chef rebelle congolais du MLC doit être reconnu coupable de la barbarie de ses miliciens en Centrafrique entre 2002 et 2003. À cette époque, ces hommes étaient allés en Centrafrique pour soutenir le président Ange-Félix Patassé, victime d'une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé. Ils avaient violé, tué et pillé. Nous venons devant vous aujourd'hui pour demander que justice soit rendue, que l'accusé Jean-Pierre Bemba soit reconnu responsable et coupable des souffrances des victimes, a dit le représentant du bureau du procureur, Jean-Jacques Badibanga, dans son réquisitoire contre l'ancien rebelle et politicien congolais accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Les événements que les victimes ont connus en Centrafrique ont provoqué un désastre sans précédent. Jamais dans l'histoire de ce pays, avant ces événements, on a connu de tels actes. Ce procès est pour les victimes un moment de vérité, la vérité sur les crimes commis par les troupes de MLC en Centrafrique, tel un tsunami. Le passage des troupes MLC en RCA a provoqué la désolation au sein de la population.
Jean-Jacques Badibanga, représentant du bureau du procureur de la CPI.
Sur demande des autorités de transition centrafricaine, le groupe international de contact sur la Centrafrique a entériné un report de 5 mois des élections prévues en février. L'annonce officielle a été faite à la radio nationale par le ministre congolais des Affaires étrangères, Basile Ikwebe, qui représente Denis Sassou Nguesso, le médiateur de la crise centrafricaine, au lendemain d'une réunion du GIC à Bangui. Après avoir estimé que le calendrier était intenable, le groupe de contact a convenu de repousser les élections en juin ou juillet 2015, a précisé M. Ikwebe.
Dans l'est de la Libye, sous contrôle gouvernemental, au moins 4 personnes, dont 3 soldats, ont été tuées et 20 blessées dans des attentats à la bombe, selon les autorités libyennes. Une des attaques a eu lieu dans la ville de Tobrouk, siège du Parlement libyen, dont l'élection récente est contestée. Une autre explosion a frappé une base aérienne dans la ville de Baïda, qui abrite le gouvernement libyen. Associated Press rapporte que l'armée libyenne a répondu aux attentats par les frappes aériennes sur la ville de Darna, un bastion islamiste.
La police de Nouakchott en Mauritanie a fermé le siège de l'ONG IRA au lendemain de l'arrestation de membres de cette association anti-esclavage, indique l'AFP. La fermeture de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie survient alors que plusieurs dirigeants de l'ONG ont été arrêtés hier à Rosso et dans la capitale. L'esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie. Malgré des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison, le phénomène perdure, souligne l'IRA.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et la Chine ont annoncé de nouveaux plans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Précision Michel Joseph.
L'annonce de ce mercredi par les deux principaux émetteurs mondiaux de dioxyde de carbone pourrait jouer un rôle clé dans les efforts de lutte contre le changement climatique. Le président Barack Obama a dit que les États-Unis sont d'accord pour réduire les émissions de gaz carbonique de 26 à 28% en 2025, ce qui représente le double du niveau des efforts actuels de réduction de la pollution. Le président Xi Jinping a déclaré de son côté que les émissions de CO2 devraient culminer en Chine d'ici 2030. Dans un article d'opinion publié par le New York Times, le secrétaire d'État américain John Kerry écrit que l'annonce représente un élan dans les négociations climatiques mondiales qui reprendront le mois prochain au Pérou et devraient se conclure l'année prochaine en France. Lors d'une conférence de presse, le président Barack Obama a qualifié l'accord de jalon important dans les relations sino-américaines, ajoutant qu'il montre ce qui est possible lorsque les deux pays travaillent ensemble. Le chef de l'exécutif américain a également salué ce qu'il a estimé être la volonté du dirigeant chinois de discuter de sujets qui ont refroidi les relations entre les deux plus grandes économies du monde pendant plusieurs années.
Crise en Ukraine. L'OTAN dit avoir observé de nouvelles colonnes de chars, pièces d'artillerie et troupes de combat russes entrer ces derniers jours dans l'est du pays. L'armée ukrainienne dit qu'elle se mobilise pour faire face à une éventuelle offensive de ses troupes. Timothée de Nangmaï.
Il y a eu dans la région recrudescence des affrontements entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes, malgré le cessez-le-feu conclu en septembre. Le commandant suprême de l'OTAN, le général Philippe Bridlov. Nous avons vu des colonnes d'équipements militaires russes, essentiellement des chars, des pièces d'artillerie, des systèmes de défense antiaérienne et des troupes de combat russes entrant en Ukraine. Des allégations immédiatement démenties par la Russie, par la voix du porte-parole de son ministère de la Défense, Igor Konashenkov. Nous avons cessé de prêter attention aux déclarations non fondées du commandant suprême de l'OTAN en Europe, le général Philippe Bridlov, qu'il aurait vu des colonnes militaires russes. Le Kremlin a démenti à plusieurs reprises toute ingérence militaire en Ukraine, qualifiant de volontaires les forces russes qui se battent aux côtés des séparatistes.
Le président palestinien Mahmoud Abbas rencontrera demain à Amman, en Jordanie, le secrétaire d'État américain John Kerry pour examiner la situation au Moyen-Orient, notamment l'escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens. M. Abbas a été reçu aujourd'hui par le souverain jordanien Abdallah II, rencontre qui a précédé un entretien entre le roi et le secrétaire d'État américain. Ces entretiens interviennent au moment où Jérusalem-Est et l'esplanade des mosquées qui s'y trouvent sont en proie à de vives tensions.
Par ailleurs, Israël a approuvé aujourd'hui la construction de 200 nouveaux logements à Jérusalem-Est. Les violences se sont poursuivies avec l'incendie d'une mosquée à l'aube en Cisjordanie et le jet d'un cocktail Molotov hier soir sur une synagogue désaffectée dans une localité arabe du nord d'Israël.
Le président américain Barack Obama se trouve à Myanmar, donc en Birmanie, dans le cadre du sommet de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique. Son arrivée a coïncidé avec la publication d'une interview dans la revue Irrawaddy, interview dans laquelle M. Obama critique des retours en arrière en Birmanie, en dépit de certains progrès depuis 2011. Le président américain devrait faire part de ses préoccupations à son homologue birman Thein Sein et au chef de file de l'opposition, Mme Aung San Suu Kyi.
Et le robot européen Philae a atterri sur le noyau d'une comète, une première dans l'histoire spatiale, a annoncé l'Agence spatiale européenne. La mission du robot laboratoire est de faire des prélèvements qui donneront des informations sur les origines du système solaire, voire sur l'apparition de l'eau et de la vie sur Terre. Voilà pour le journal. Nathalie Barger, Chérubin Dorsil en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le Mali a enregistré un nouveau cas de fièvre à virus Ebola. Un infirmier de la clinique Pasteur de Bamako. Alors que les soins lui étaient administrés, l'agent de santé âgé de 25 ans est décédé mardi 11 novembre, c'est-à-dire hier, sans céder à la panique. Les Bamakois sont tout de même préoccupés par cette nouvelle situation, d'autant que les autorités maliennes avaient donné des assurances. Des détails avec Kassim Traoré, notre correspondant.
L'enregistrement d'un second cas de fièvre à virus Ebola à Bamako n'a pas été une bonne chose selon les populations.
Bon, je ne dirais pas que j'ai peur, mais quand même, il faut faire très attention. Il faut être très vigilant et faire très attention et respecter les règles que le ministère de la Santé a mis à la disposition des gens. Il faut les respecter strictement, se laver les mains, respecter les règles d'hygiène, éviter les contacts.
Moi, je pense que, comme l'a dit le directeur de la clinique, il y a eu une certaine imprudence, quoi. Parce que vraiment, toutes les structures de santé doivent pouvoir actuellement être sous leur garde.
Dans les rues de la capitale malienne, beaucoup de gens pensent que le gouvernement doit redoubler d'ardeur et prendre de véritables mesures de protection de la population.
Le département de la santé, parce que moi-même j'ai fait le constat, quand tu passes à Kouré-Mali, la frontière guinéenne est fermée de 6h. De 18h à 6h du matin. Mais les infirmiers en question pour les tests ne viennent qu'à partir de 9h. Donc déjà, le cordon de sécurité n'est pas très bien respecté.
Sentiment de regret, d'abord toutes mes condoléances à ceux ou bien à celles qui ont été victimes de la maladie. Je lancerai un appel à tous les Maliens d'abord de vraiment respecter les consignes de santé qu'on nous a divulguées à travers les médias. Pour qui connaît le Mali, les sentiments sociaux qui existent entre tous les Maliens, bon, c'est bien que les gens changent un peu de comportement pour pouvoir vraiment lutter contre cette maladie-là.
En tout cas, les plus sceptiques commencent à croire en l'existence de cette maladie qui est la fièvre à virus Ebola.
Ce matin, j'ai appris le décès de l'infirmier à la clinique Pasteur. Je dis aux populations de Bamako de croire à l'Ebola. L'Ebola existe, bien et belle. Parce que c'est le deuxième décès avec l'Ebola.
Aujourd'hui, les Maliens sont préoccupés par l'enregistrement de ce second cas qui sort de l'ordinaire. Ils interpellent le gouvernement à prendre plus de dispositions car trop c'est trop. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le Burkina Faso, toujours dans l'expectative après la chute du régime de Blaise Compaoré. Armée et civils se battent pour le contrôle de la transition qui va conduire aux élections l'année prochaine. Bourayma Ouedraogo, journaliste et directeur de publication du bi-hebdomadaire Le Reporter, joint à Ouagadougou par Jean-Roger Bion, met en garde contre le risque de bâcler la transition.
Si le peuple s'est battu effectivement pour éviter le pouvoir à vie et puis relancer le processus démocratique, c'est pas pour que les gens se battent autour de comment ils vont gérer une transition. Du coup, ça a contribué à étouffer un peu tout l'enthousiasme qui a prévalu au point fort de la crise, en tout cas au niveau de la jeunesse.
Est-ce que vous pensez que tout ce qui se trame est fait pour maintenir au pouvoir la junte militaire?
Je crois comme tout le monde que la junte s'est pertinemment qu'elle ne veut pas rester. Parce que si on s'est battu contre le pouvoir qu'on parlait, c'est pas pour mettre des militaires à sa place. Que l'armée doit partir, tout le monde est unanime dessus, sauf les militaires eux-mêmes. Maintenant, ils cherchent à gagner du temps, je ne sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression qu'en tout cas, il y a un agenda pas très clair au niveau des militaires, dont nous cherchons aujourd'hui encore à connaître le terrain et les aboutissants.
Alors, que pensez-vous de la médiation africaine? Au Mali, ils avaient été fermes, mais apparemment au Burkina Faso, ils sont plutôt tendres avec le pouvoir militaire.
On est parti d'une position de fermeté et au départ pour arriver à une position de négociation, je ne comprends pas pourquoi. C'est toujours dit qu'effectivement la situation burkinabé n'est pas totalement comparable à celle du Mali parce qu'ici ce n'est pas un coup d'État, c'est une insurrection populaire. Et dans tous les cas, la communauté internationale doit garder une position de fermeté. On a dit une transition civile, ça doit être une transition civile. Le peuple s'est battu, ce n'est pas pour que les militaires viennent s'accaparer du pouvoir. Donc, il faut effectivement remettre ce pouvoir au civil pour qu'on puisse organiser la transition et puis aller vite vers des élections démocratiques transparentes. On se bat pour une transition alors que l'objectif, c'est d'aller vers des élections transparentes pour avoir un pouvoir légitime et démocratique. On risque en tout cas de bâcler cette transition et par la suite bâcler le processus démocratique et on continuerait effectivement à faire comme si on n'avait pas pu faire partie de l'élection terroriste.
On écoutait Bourayma Ouedraogo, journaliste et directeur de publication du bi-hebdomadaire Le Reporter.
Cette semaine, dans Washington Forum, les trois leaders religieux centrafricains sont à l'honneur. L'archevêque Nzapalainga, le révérend Bangou et l'imam Layama sont nos invités exceptionnels cette semaine à Washington dans nos studios pour parler de la crise centrafricaine. Retrouvez-nous à 19h temps universel ce jeudi sur La Voix de l'Amérique.
Plusieurs quartiers de Kinshasa sont privés d'eau depuis plusieurs jours. La Régie des eaux, entreprise d'État chargée de la distribution de l'eau, a des difficultés pour desservir la capitale de la RDC. Les Kinois, obligés parfois de faire des kilomètres à la recherche du précieux liquide, demandent des comptes à cette agence nationale. Voici un reportage de Mamichela de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
Des femmes et des enfants transportant des bidons d'eau qui sillonnent les différentes avenues de Kinshasa à la recherche de l'eau, c'est le spectacle qu'offre la capitale congolaise depuis quelques semaines. L'eau n'écoule presque plus des robinets, la situation devient de plus en plus inquiétante dans presque toutes les communes. Les habitants de la capitale sont privés de cette denrée de première nécessité depuis plusieurs jours. Au quartier Pigeon, dans la commune de Ngalema par exemple, l'eau n'a pas coulé depuis une semaine. Certains habitants vont même jusqu'à demander la démission des autorités de la Régie des eaux, entreprise chargée de distribuer de l'eau, pour leur incapacité à résoudre ce problème.
Il me faut au moins 3 000 par jour pour avoir de l'eau. Si le chef qui est en place, il voit qu'il n'est pas capable de nous servir, nous, la population, il n'a qu'à démissionner.
Nous payons mensuellement nos factures et ça vient très cher même. Nous payons cher même et l'eau ne coule pratiquement pas.
Même constat au quartier camping dans la commune de Selembao où les habitants affirment que l'eau ne coule pas des robinets depuis près de 2 semaines.
Nous n'avons jamais eu l'eau en permanence. À chaque sortie, nous devons aller avec des bidons. Je ne sais pas comment on tire la chasse d'une toilette parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est honteux pour la Régie des eaux.
Le député national de l'opposition, Clément Kankoubukasa, estime que les responsables de la Régie des eaux devraient s'expliquer sur ce problème à l'Assemblée nationale. Il accuse par ailleurs le bureau de la Chambre basse du Parlement d'étouffer une question orale avec débat initié à ces sujets.
La situation ne fait que se dégrader. Cette fois-ci, il faudra absolument que la haute direction de la Régie des eaux vienne s'expliquer. Donc nous ne comprenons pas que l'Assemblée nationale n'inscrive pas cette matière au niveau de la plénière. Parce que la situation ne fait que se dégrader et la population a besoin de réponses.
Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kapandji-Kalala, a lui indiqué que les travaux de réhabilitation des infrastructures de production du courant électrique effectués notamment au niveau du barrage hydroélectrique de Inga sont à la base de ces perturbations enregistrées dans la fourniture d'eau.
Il y a des travaux partout et ces travaux demandent que, pour éviter des accidents, qu'on arrête la fourniture de l'électricité. Lorsqu'on arrête la fourniture d'électricité, et qu'au niveau des Régies des eaux, le groupe ne marche pas, il y a coupure. Deuxième raison, la réhabilitation que nous faisons dans les systèmes électriques, nous faisons la même réhabilitation dans les systèmes de distribution de l'eau. Ces travaux peuvent prendre parfois 1 jour, 2 jours, même 3 jours.
Kinshasa, Mamichela de Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La force régionale mobilisée par l'Union africaine contre la LRA, l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony, fait des progrès, mais faute de ressources additionnelles, elle mettra plusieurs années à neutraliser ce groupe rebelle ougandais et libérer les enfants soldats qui l'utilisent. Précision de Lionel Gaïma.
Dans sa campagne contre le président ougandais Yoweri Museveni, l'armée de résistance du Seigneur s'est rendue tristement célèbre par le pillage de nombreux villages, l'enlèvement des enfants et le déplacement des milliers de personnes. Mais selon le général Samuel Karuma, ces rebelles ont été affaiblis par l'action de troupes africaines.
We've been reducing their strength. That is by...
Nous avons réduit leur force en tuant certains et en capturant d'autres au point d'éliminer le numéro 2 de leur hiérarchie ainsi que de nombreux autres chefs et plusieurs leaders ont fait défection. Composée de soldats de l'Ouganda, du Soudan du Sud, de la RDC et de la RCA, la force régionale dispose des bases dans les quatre pays affectés par l'action de la LRA. Chassé de l'Ouganda, ce groupe s'est replié au Soudan du Sud. Il aurait éclaté en 5 factions, opérant essentiellement en RCA et en RDC. L'Ouganda a promis 2000 soldats à la force régionale et les 3 autres pays, 1000 chacun, pour un total de 5000 soldats. Mais selon le colonel Mike Kabongo, commandant du contingent ougandais, aucun des autres pays n'a été en mesure d'honorer sa promesse.
As we speak now, Uganda is at 1500.
L'Ouganda en est à 1500 hommes. Nous étions à 2000, mais en raison d'autres engagements, ce nombre est en baisse. La RCA, zéro. Et lorsque Bozizé a été renversé, tout le monde s'est dispersé. La RTC, 200 à 500 est fluctuant. Même chose pour le Soudan du Sud, 100 à 200 soldats. Les États-Unis assurent un soutien aérien et à travers le commandement régional pour l'Afrique, la formation. Cependant, les soldats américains ne se sont pas impliqués dans les opérations sur le terrain. L'Union africaine a autorisé la force régionale, mais sans mandat, c'est-à-dire que l'appui financier incombe aux pays contributeurs. De ce fait, la force fait face à de nombreux défis, explique le général Karuma.
We need the mobility, we need to cater for our troops for morale, purposes and other...
Nous avons besoin de mobilité et de soutien à nos troupes pour maintenir le moral. D'autres choses nécessaires permettant à une force d'opérer et de ressources humaines. L'idéal serait d'avoir les 5000 soldats promis, mais nous opérons actuellement avec 2000 et la région est immense.
And these countries are huge in terms of size.
Basé à Dungu, en RDC, le Centre de renseignement conjoint de la force régionale analyse les informations sur la LRA. Le capitaine Louis Charles en est le coordinateur intérimaire. Si Kony est capturé ou tué, certains combattants se rendront, mais certains groupes nés dans la forêt y resteront. La LRA compterait entre 300 et 500 combattants qui se financent par la contrebande d'ivoire et se déplacent dans les zones d'accès difficiles pour une force régionale sous-équipée.
Le monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, on passe au sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, pour commencer, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2015.
Oui, et jusqu'à présent, hein, on ne sait pas encore où aura lieu l'événement. On avait d'abord cité plusieurs pays ce matin, dont l'Angola et même le Qatar. Mais ces deux pays ont démenti. Est-ce le Gabon finalement ou un autre ou d'autres pays co-organisateurs? Le temps presse, Chérubin, pour trouver un nouveau pays hôte pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2015, après les sanctions hier contre le Maroc. La CAF maintient pourtant que le tournoi se tiendra bel et bien aux dates prévues, c'est-à-dire du 17 janvier au 8 février. Mais franchement, tant qu'on n'a pas de pays confirmé, tout est bien possible, y compris le report ou l'annulation pure et simple de l'événement. Le choix du nouveau pays hôte devrait être annoncé dans 2 ou 3 jours. C'est ce qu'a affirmé sur France 24 le président de la CAF, le Camerounais Issa Hayatou.
Et Bagassi au Kenya, le champion sortant, conserve son titre.
Oui, il s'agit de Gor Mahia qui a bouclé le championnat avec 3 points d'avance sur Sofapaka. Sacré une seule fois en 2009, il représentera le Kenya dans la Ligue des Champions 2015. Ce club est le seul, je parle donc de Gor Mahia, il est le seul du Kenya à avoir disputé une finale de Coupe d'Afrique. C'était en 1987, la Coupe des vainqueurs de Coupe. À l'époque, Gor Mahia avait battu l'Espérance de Tunis.
Entre sport et politique, Nathalie, pour celui qu'on appelle Mr. George.
Il veut être sénateur au Libéria, c'est ça Bagassi?
Oui, l'ancienne star internationale du Paris Saint-Germain. Et aussi des Lion Stars du Libéria, George Weah, Mr. George comme on dit, a renoncé à son titre d'ambassadeur de la paix pour se présenter aux élections sénatoriales dans la province de la capitale Monrovia, ce que nous apprend un communiqué de la présidence libérienne.
Toujours en football, il paraît que la Russie, et ça c'est la dernière nouvelle, Bagassi n'a pas les moyens de payer son sélectionneur.
Oui, la Fédération russe de football a révélé mercredi ne plus être en mesure depuis plusieurs mois de payer le salaire estimé à environ 7 millions d'euros par an de l'Italien Fabio Capello. Voici ce que déclare un membre du comité exécutif de la Fédération russe, Sergei Stepachin. Lorsqu'ils ont signé le contrat, ils auraient dû penser aux sources de financement. Aujourd'hui, il faut trouver ses sources. M. Capello est considéré comme le sélectionneur le mieux payé au monde et il avait récemment affirmé ne pas être payé selon son contrat depuis 5 mois.
Merci Bagassi Koura. Alors Nathalie, peut-être qu'il faudrait pour les fans de basket signaler que San Antonio, mon équipe il faut le dire, a battu Golden State Warriors hier soir dans la NBA par 113 à 110. Dallas l'a emporté sur Sacramento 106 à 98 et Toronto a battu Orlando 104 à 100.
Et petite victoire de Portland sur Charlotte par 102 à 100, n'est-ce pas, Ebagassi?
Oui, je savais que comme San Antonio a gagné, je savais que Gabi allait en profiter pour bien se montrer.
Voilà, merci.
Merci beaucoup pour les sports. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur la Voix de l'Amérique. À présent, la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Nathalie, salut Gabi, la chanteuse Rokia Traoré est née en 1974. Je pense que Gabi ne savait pas ça. Voilà, c'est une information pour Gabi dans la région de Balidougou au Mali, près de la frontière mauritanienne. Mais son enfance se déroule au fil des affectations de son père diplomate, Nathalie, malien. Il voulait vraiment pas trop voyager, mais écoutez, avec la famille, on connaît bien les diplomates. Quand ils voyagent, les enfants, maintenant ils viennent, ils se prennent beaucoup plus d'autres cultures. Et voilà. Mais elle chante toujours, elle aime bien chanter dans sa langue maternelle et elle a une très belle voix, on écoute.
Alors elle est également guitariste, une très très bonne guitariste. Hein. Moi je l'ai écoutée, j'ai écouté avant de venir dans le morceau Sarah. C'est magnifique, c'est splendide, elle a une voix superbe. Et dites-moi si je me trompe, Roger elle a fait ses études à Bruxelles et après elle est retournée, elle est allée se ressourcer au Mali pour mettre en forme cette musique difficile à classifier dans un style particulier.
Mais c'est ça, une musique qui n'est ni pop, ni jazz, ni classique, mais plutôt quelque chose de très contemporain, interprété par des instruments traditionnels, assez distincts par son style artistique, mêlant bien sûr tradition malienne, musique mandingue je dirais, et modernisme occidental, Nathalie.
Merci beaucoup Roger.
De rien,
pour Rokia Traoré, Koronoko, Roger Muntou, que l'on retrouve dans le RM Show à 20h, temps universel. Et voilà, donc on arrive au terme de notre émission. J'en profite pour dire bienvenue à notre nouvelle station partenaire Radio Balafon à Douala, au Cameroun. Voilà, avec vous, c'était Nathalie Barger, Chérubin Dorsil. Michel Joseph a dirigé la mise en onde, accompagné de Nashran Kale. Très bonne soirée à tous à l'écoute de la Voix de l'Amérique.